Bonjour Marie-Huguette. Bonjour Jean-Gilbert. Bonjour Ozani. Bonjour Rachel. Désolé du petit retard. Je suis rentré un peu en retard à la maison ce matin. J'avais quelque chose à faire à la garderie pour Daphné. Puis après ça, il y avait du trafic au retour. Donc j'ai pris un peu de retard. Puis après ça, je me suis mis à faire la soupe pour ce soir. Et j'ai pas vu l'heure passer. J'avais installé tous mes trucs, j'avais le temps. Donc voilà. Donc la soupe est en train de mijoter. Donc j'espère que vous allez tous bien. On est le mardi 14 décembre. Hello Sylvia, God bless you. Hello to Pastor David also. Bonjour Immacula. Bonjour la belle-mère, Shalom. Rachel, on salue les sœurs qui sont avec toi, bien entendu. La sœur Mona, la sœur Ocilia, la sœur Chantal. Bonjour Maggie, bien heureux de vous avoir avec nous ce matin. J'espère que vous allez bien. Bon matin à mon père et à ma mère. Marie-Marthe, bonjour. Bonjour à ma mère. Ben pour l'instant, la soupe ne sent pas grand-chose ici, là, parce que j'ai juste fait la base, en fait. Le bouillon, puis l'ingrédient principal, je vais le rajouter après. Good morning, Pastor David. Bonjour, Guy. Et pour ceux qui se demandent quelle sera la soupe numéro, je pense que c'est la soupe numéro 20 aujourd'hui. Ça devrait être un velouté de poivron aux crevettes. C'est ce que j'invente aujourd'hui. Bonjour Thérèse. Merci la belle-mère. Mais ça sent bon si vous aimez l'oignon, l'ail, le poivron. Qui sont tombés déjà. Et après ça, ben, une fois que c'était bien tombé pour que ce soit assez sucré, donc là j'ai rajouté l'eau pour faire le bouillon. Donc pendant cette heure-ci, ben, ça va mijoter tranquillement. En faisant les 20 soupes, j'ai quand même perdu un peu de poids. En fait, 1 kg par semaine en 3 semaines, c'est pas trop pire. Et puis, certains malaises que j'avais la nuit ne sont pas présents depuis 3 semaines. Donc, j'en suis. En fait, non, il y a eu une nuit quand c'était pas la soupe au souper. Donc, j'en suis très content. Ça me donne, bien que je sois encore bien fatigué, ça me donne quand même des nuits plus paisibles. Mais moi, je te vois écrire, Thérèse, je sais pas. En tout cas, ton message passe, Thérèse. Je sais pas si tu n'es pas capable de mettre les visages, les émojis, mais le texte, je suis capable de le lire. Sois bénie, Thérèse. Hermana Susana, que Dios la bendiga. Bonjour à Myriam et à Donald. J'ai hâte de vous voir. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Si vous descendez à Montréal un de ces dimanches, eh bien, on serait heureux de vous avoir parmi nous. Alors, Thérèse, je te lis davantage que je ne te vois habituellement, donc c'est bien. Parce que les émojis qui apparaissent, j'arrive pas à identifier qui fait les émojis. Par contre, quand quelqu'un écrit un texte, je peux voir qui écrit. Alors, on va prier et on continue notre étude qu'on a débutée hier matin. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce matin, pour cette autre merveilleuse occasion que tu nous donnes d'étudier ta parole, de plonger nos regards. Et quel privilège de savoir que chaque matin, depuis maintenant plus de 18 mois, tu nous as bénis avec un mot tout particulier que tu avais préparé de toute éternité pour nous. Et on t'en remercie. Ça a été l'occasion de développer des liens avec de nouvelles personnes, ça a été l'occasion d'être mis au défi par ta parole, mis au défi de la transformation et du changement. Alors merci Seigneur, merci pour tous ces gens qui sont fidèles jour après jour à travers ces bénédictions matinales. On te demande de les bénir, on te demande d'ouvrir notre entendement, notre pensée pour le message du jour. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur et que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous savez, cette semaine, on pousse plus loin la prédication qui nous a été donnée dimanche. C'était un texte qui sortait de Romains 5, du verset 1 à 5. C'est le pasteur Hannibal qui apportait la parole ce dimanche. Et son titre, qui était essentiellement basé sur les versets 1 et 2 de ce passage, était Les bénéfices de la justification. Donc, on a vu quels étaient les privilèges qui nous étaient accordés en tant qu'enfants de Dieu, de quoi nous bénéficions suite au salut, au rachat, à la rédemption de notre vie. Et nous, on pousse un peu plus loin cette semaine avec les versets 3 et 4. Donc les deux versets suivants, où on parle non plus des bénéfices, mais des conséquences de la justification. Et comme vous allez voir dans le texte, il semble y avoir une progression dans ce que Paul enseigne à l'église de Rome. Il leur a dit, voici tout d'abord quels sont les bénéfices, tels que le pasteur Hannibal l'a fait ressortir. Et par la suite, il a dit, voici les conséquences, mais chacune de ces conséquences amène une conséquence supplémentaire, d'où la pensée que Paul communiquera plus tard dans ses écrits d'aller de progrès en progrès. Donc chacune des situations qu'on traverse nous amène à progresser. Je lis pour vous le texte et je fais un court résumé de l'enseignement d'hier parce que comme c'est une suite logique, une progression, c'est bon de revenir sur ce qu'on a vu. Donc Romains 5, le verset 1 nous dit: Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Hier, on a étudié la première partie du verset 3. Certains diront que c'est le verset 3a. Et aujourd'hui, on fait le 3b. Donc, le 3a disait hier, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Et l'idée de Paul qu'on a communiqué hier, c'était que nous devrions avoir une vision et une attitude par rapport à l'affliction qui change. Au lieu d'être abattu, au lieu d'être terrassé par l'affliction, que nous puissions y voir un processus dans lequel Dieu œuvre sur différents plans. Premièrement, y voir un honneur à subir ces outrages pour la cause de Christ. Deuxièmement, y comprendre que l'affliction est une occasion de transformation. Le terme « se glorifier » parlait non seulement de se réjouir, mais aussi d'exploser. Et l'explosion d'un objet transforme cet objet. Et nous aussi, par l'affliction, nous sommes transformés. Alors parfois, le Seigneur veut faire des changements dans notre vie, et ça vient effectivement à travers l'affliction. Troisièmement, y voir dans l'affliction une occasion de se répandre. L'Église primitive a explosé. Elle était à Jérusalem, basée à Jérusalem, circonscrite à des Juifs qui reconnaissaient le Messie en Jésus. Mais la persécution contre ce groupe initial que constituait l'Église a permis à l'Église non seulement d'exploser, donc de se répandre à l'extérieur de Jérusalem, d'aller effectivement tel que Jésus l'avait annoncé jusqu'en Samarie, jusqu'en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et très souvent, les mouvements spirituels qu'on a vus, les réveils spirituels qu'on a vus dans plusieurs contrées, dans plusieurs continents, ont été accompagnés ou précédés par un temps d'affliction, par un temps de tribulation. Alors, lorsque l'affliction vient, lorsque la tribulation vient, puissions-nous y voir l'occasion pour Dieu de nous sortir peut-être du terrain dans lequel nous sommes habitués pour répandre notre message au loin. Et quatrième point qu'on a vu hier, c'est une occasion, l'affliction, de se réjouir à la pensée, se réjouir par la foi pour les résultats que nous savons que l'affliction apportera. Comment savons-nous que cette affliction va avoir de bonnes conséquences? Tout simplement parce que si l'affliction est une tribulation effectivement qui nous est lancée par l'ennemi, la Bible nous dit que Dieu change les malédictions en bénédictions. Ça veut donc dire que les attaques de l'ennemi qui devraient servir ou qu'il voudrait utiliser pour nous abattre, pour nous affaisser, pour nous faire taire, ont plutôt, si on les regarde dans le regard ou à travers le regard de notre Seigneur, c'est l'occasion de faire croître, de faire avancer son œuvre, c'est l'occasion de peaufiner notre vie, de faire en sorte de transformer nos vies pour que nous puissions aller de progrès en progrès, de grâce en grâce, de succès en succès. Alors effectivement, on peut se réjouir de l'affliction. Et aujourd'hui, donc, on voit le verset 3b qui nous dit « Sachant que l'affliction produit la persévérance ». Alors hier, c'était bien plus, on se réjouit, on se glorifie, on jubile en raison de l'affliction, en raison de la tribulation qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre. Et là, il nous dit « Parce que cette affliction, donc on se glorifie et on se réjouit, parce qu'on sait que cette affliction produit la persévérance ». Alors, deux termes importants aujourd'hui. La fiction, on l'a déjà vu hier, je le répète tout simplement pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui prennent des noms, des notes. Le terme affliction tel que vu hier, c'est le terme clipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, je répète, T-H-L-I-P-S-I-S. Vous savez que ça veut dire oppression, affliction, tribulation, détresse, trait, comme dans trait enflammé de l'ennemi, donc les flèches enflammées que l'ennemi pouvait lancer et peut lancer sur nous. Les deux termes importants aujourd'hui, c'est l'affliction produit, donc le verbe produire, qui est le terme grec katergazomai, katergazomai, donc K-A-T-E-R-G-A-Z-O-M-A-I, katergazomai, je répète, K-A-T-E-R-G-A-Z-O-M-A-I, et le terme persévérance, hypomone, hypomone, H-Y-P-O-M-O-N-E, je répète, hypomone pour persévérance, H-Y-P-O-M-O-N-E. Et on va avoir l'occasion donc d'élaborer sur ces deux termes importants, katergazomai et hypomone. Premièrement, l'affliction produit. C'est très particulier, c'est très dichotomique ou contradictoire plutôt avec certaines pensées reçues. Très souvent, notre attitude avec les moments difficiles, c'est de croire que ces moments difficiles sont vils, ne servent à rien, que les résultats de ces moments difficiles ne sont que des choses négatives et en fait une décroissance, voire une dégénérence de notre vie. En fait, l'affliction, si elle dit qu'elle produit, ça veut donc dire qu'elle va susciter des choses, qu'elle va créer des choses. Et dans katerzomai, on va avoir plusieurs synonymes, plusieurs mots qui vont expliquer ce terme. On va avoir produire, donc katerzomai, qui veut dire performer, accomplir, achever, faire marcher ou faire fonctionner, faire ce qui amène des résultats, et enfin, amener une chose à être telle qu'elle doit être. J'ai personnellement divisé l'ensemble de ces termes en trois pensées. Premièrement, l'affliction produit veut dire qu'elle met en marche la persévérance. Il ne peut pas y avoir de persévérance s'il n'y a pas de moment difficile. Les gens pensent que persévérance se peut lorsque les choses sont faciles. Non, la persévérance se montre lorsqu'on a envie de lâcher. La pensée de la persévérance est de continuer même si on a envie d'abandonner. Ça veut donc dire que pour que la persévérance rentre en fonction, il faut qu'il y ait chez moi, chez toi, le désir de tout envoyer promener ou de tout laisser tomber. L'affliction produit chez toi, chez moi, ou elle devrait produire chez toi et chez moi, la mise en marche de la persévérance. Lorsque l'affliction vient, le réflexe que ça devrait susciter chez nous, c'est la persévérance. La pensée première serait de dire, est-ce que je ne dois pas arrêter maintenant? La pensée première serait de dire, est-ce que je ne peux pas me défiler de ce moment difficile, me défaire de ces circonstances qui sont pénibles pour passer à autre chose? Non, celui qui comprend, comme on l'a vu hier, que l'affliction est un honneur qui nous est donné de pouvoir vivre cette affliction pour Jésus, que c'est l'occasion que Jésus utilise pour nous transformer, que c'est l'occasion que Jésus utilise aussi pour donner de l'expansion à son Église, voire de l'expansion à l'Église locale qu'on peut représenter ou au ministère qui peut être le nôtre. Et enfin, que c'est l'occasion aussi de se réjouir en sachant que l'affliction va amener quelque chose de bien. Donc, au lieu de nous abattre, au lieu de nous envoyer vers un abandon, L'affliction devrait susciter chez moi et chez toi la mise en marche, le démarrage de la persévérance. La persévérance se manifeste lorsque les choses sont contraires. Donc, premièrement, ce que l'affliction va produire dans ta vie, ou ce qu'elle devrait produire dans ta vie, c'est donc la persévérance, la mise en marche de la persévérance. Mais ça va plus loin que simplement l'actionner. Parce que tu peux avoir une bonne persévérance, tu peux avoir une faible persévérance, tu peux avoir une excellente persévérance. Comme dans toute chose, tout à l'heure on parlait de la soupe, tu peux avoir une soupe banale, tu peux avoir une bonne soupe, et tu peux avoir une soupe excellente. Dans la vingtaine de soupes qu'on a fait jusqu'à présent, il y en a certaines qui me plaisent énormément. Il y en a d'autres qui sont tout simplement, ouais, c'était correct, mais je peux vivre sans la refaire. Lorsqu'on parle de la persévérance, ben actuellement, il peut y avoir chez toi une petite persévérance. Ça veut dire que je n'abandonne pas, mais je ne pousse pas très loin. Il peut y avoir chez toi, je n'abandonne pas et je me maintiens en place. Et il peut y avoir chez toi, je n'abandonne pas et je progresse contrairement à l'affliction ou à ce que l'affliction voudrait susciter. La pensée qui me vient à moi, c'est un peu lorsque j'étais dans ce périple avec la maladie, je me suis fait un point d'honneur de témoigner un maximum et de parler à un maximum de gens pendant la maladie. J'ai continué par la suite, mais au départ, c'était ma petite vengeance par rapport à ce que je traversais. Je me disais, mais si le diable veut me taire, si le diable veut m'affaisser au sol et m'empêcher d'avancer, je vais lui montrer que je suis encore plus efficace sous pression. Et étant donné qui je suis, j'ai souvent fait le lien entre la maladie, les traitements médicaux et la boxe. La maladie m'a appris quel type de boxeur je suis. Je ne suis pas un grand boxeur dans le sens, je ne suis pas pour ceux qui connaissent, un Mayweather qui ressort avec le visage immaculé, qui ne s'est jamais fait mettre KO, qui n'est jamais tombé au sol. Moi, je suis plutôt le boxeur type Rocky, pour ceux qui ont vu les films. C'est, je me ramasse au sol, mais je me relève. Tu me renvoies au sol, mais je me relève encore. Et l'idée, c'est que arrivé à la fin du 12e round, je sois encore là. La persévérance, c'est ça. C'est pas le fait de ne pas tomber, mais c'est le fait de dire, je ne me laisserai pas abattre, je vais me relever. Les coups font mal, l'adversité fait mal, on n'est pas des gens insensibles, on n'est pas des robots, on ressent les choses, on ressent la pression, on ressent l'oppression, mais en réponse à cette affliction, on dit, je ne me laisserai pas mettre au sol. Si je tombe, je me relève. Un peu comme le prophète va dire, ne te réjouis pas de moi, mon ennemi, si je suis tombé, je me relèverai. Quel merveilleux verset. C'est l'image dans ma tête du boxeur qui dit, regarde, je suis tombé, mais je me relève. Tu m'as fait mal, mais je me relève et je me mets devant ton visage et je me mets devant tes coups et je reste là, je ne reculerai pas. Je retomberai peut-être encore, mais une septième fois, je vais me relever. Et quand le combat va terminer, Dieu va prendre ma main, va la lever et je serai vainqueur sur l'affliction. Donc la persévérance se met en marche par l'affliction. Et en deuxième point, la persévérance est peaufinée par l'affliction. Plus je suis dans ces moments d'attaque, plus je vois les attaques de l'ennemi arriver, plus l'ennemi vient pour m'abaisser, plus je commence à connaître aussi mon ennemi. Ça fait mal, c'est pas agréable, mais dans un combat, plus nous recevons de coups de notre ennemi, plus nous venons à connaître sa force et son intensité. Je vous ai déjà dit, à un moment donné, les gens avec qui je m'entraînais étaient soit des boxeurs professionnels ou des gens qui s'en allaient vers une carrière professionnelle ou des gens qui allaient compétitionner aux Jeux Olympiques ou autres. Et à un moment donné, je me rappelle, il y a un de ces boxeurs qui m'envoie un coup, mais directement sur le nez. On avait un casque, mais le nez était quand même accessible. Et il m'envoie un bon coup sur le nez. Et je me mets à sourire. Et ça l'a
Ça l'a complètement déconcentré, puis il me dit, Florent, arrête de sourire. Et il dit, mais non, mais c'est que je viens de comprendre pourquoi tu as réussi à me frapper sur le nez. Puis je viens de comprendre que je suis capable de résister à ce coup. J'étais content d'avoir subi l'impact sur mon nez pour me dire, Florent, tu es capable de subir ça, tu es capable d'en prendre davantage. Lorsque l'ennemi vient nous frapper, ça nous permet aussi de peaufiner notre persévérance. Au début, on essaie tout simplement de garder la tête au-dessus de l'eau. Mais à un moment donné, on essaie de retrouver la rive, on apprend à nager. Puis à un moment donné, on lui dit, regarde, tu peux envoyer tous les requins que tu veux autour de moi. Moi, j'ai décidé que j'allais traverser la rivière et je vais traverser la rivière. L'affliction, la tribulation nous permet non seulement de mettre en marche la persévérance, mais nous permet aussi de peaufiner la persévérance et nous permet de l'amener même à maturité. Dans cette pensée de produire, il y a cette pensée d'enclencher, d'améliorer et d'amener à l'état où la chose devrait être. Je vous rappelle la définition qu'on a donnée, ou une des définitions qu'on a donnée tout à l'heure sur le terme katergazomai, qui disait amener une chose à être telle qu'elle doit être. Ta persévérance du début ne sera assurément pas la persévérance que tu auras avec l'expérience, avec la maturité, avec le vécu. Je me rappelle un jour, je parlais avec le pasteur Fontalvo sur une situation qui suscitait de l'émotion chez moi, mais chez lui, ça le laissait vraiment pantois. Il était très calme par rapport à une problématique assez importante à laquelle on faisait face en tant que pasteur. Et je lui ai dit, mais comment vous êtes calme? Et il me dit, mais Florent, j'ai 60 ans, tu en as 30. À l'époque, c'était l'âge que j'avais. Il me dit, c'est normal que tu réagisses comme tu réagis, et c'est normal que moi, je réagisse comme je réagis. Ça serait anormal que tu arrives un jour à 60 ans et que tu réagisses comme tu réagissais à 30 ans. Et ça, c'est tout simplement parce que la maturité de notre persévérance fait qu'à travers l'affliction, à un moment donné, on ne réagit plus de la même manière. On réagit avec maturité et notre persévérance a été amenée à pleine maturité. Alors les trois premiers points aujourd'hui, l'affliction produit une mise en marche de la persévérance, un peaufinement de la persévérance en point 2 et en point 3, une maturité de notre persévérance. Notre persévérance, comme toute autre chose dans notre vie, doit aller de progrès en progrès. Là, on nous dit, l'affliction produit la persévérance. Et foncièrement, on a tous une idée de ce qu'est la persévérance. Mais comme toujours, on va aller dans l'étymologie du texte ou du terme, on va reprendre les différentes traductions qu'on peut donner. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs éléments qui sont inclus dans la persévérance. La persévérance veut d'abord dire durer sur le temps. Ça veut donc dire de la patience. Patience et persévérance sont intimement liés. La patience n'est pas un don spirituel, c'est un fruit de l'esprit. Ça veut donc dire que c'est quelque chose qui se développe chez nous. Ça veut donc dire que la patience n'est pas quelque chose qui me tombe de façon innée dessus, mais c'est quelque chose qui va se travailler chez moi. Et l'affliction va travailler ma persévérance. Donc, va travailler ma patience. Il n'y a pas différents moyens de développer la patience que d'être confronté à l'impatience. C'est une décision de rester calme ou de s'énerver. C'est une décision de ramener notre âme au calme, de ramener notre âme à sa quiétude et à sa tranquillité, ou de laisser vagabonder notre âme jusqu'à être impatiente. L'affliction va produire chez nous la persévérance et comme synonyme à la persévérance, c'est bien entendu la patience. Un deuxième synonyme à la persévérance, c'est la résilience. La patience, c'était tout simplement d'endurer le temps. La résilience, c'est d'endurer la douleur, d'endurer l'inconfort. L'endurance est une chose, mais la résilience en est une autre. L'endurance, c'est d'être capable de durer sur le long terme. La résilience a nécessairement dans sa connotation, dans sa pensée, un aspect de douleur, un aspect d'inconfort. C'est un peu comme ceux qui courent des longues distances. Lorsque j'étais au secondaire et au collège, je compétitionnais avec l'école en athlétisme. Et bien que j'étais correct dans les épreuves de sprint, ma force à moi était les courses de fond et de demi-fond. Donc les courses d'endurance, le 1000, le 3000, le 5000 mètres, c'était les courses dans lesquelles j'aimais compétitionner. Et une des facettes que j'aimais compétitionner et qui m'est revenue cette semaine lorsque j'entendais un athlète qui parlait un peu de ce même type de course, et il disait ce que j'ai découvert dans les courses de fond, donc dans les courses d'endurance, c'est que j'aimais la douleur que suscitaient ces moments-là. Il y a une espèce d'amour avec cette douleur qui vient, et là on parle pas d'être masochiste, là. On parle tout simplement d'apprécier l'effort que ça demande et la douleur que demande cet effort, et d'être capable de, on va dire, d'apprivoiser cette douleur. Je me rappelle que lorsque je courais à l'époque, à un moment donné, le corps était rempli d'acide lactique, les jambes brûlaient, les bras brûlaient, les poumons voulaient m'arracher. Mais on apprend à endurer cette douleur, et alors que d'autres abandonneraient, on continue à avancer. Un peu comme le boxeur et un peu comme je mentionnais tout à l'heure, se prendre le coup sur le nez nous permet de synthétiser intellectuellement, émotionnellement, la douleur et d'être capable de dire « Ok, je suis capable de, en bon québécois, de toffer cette douleur. Je suis capable d'endurer cette douleur. Je suis capable de la surpasser. » Donc la persévérance va appeler non seulement la patience, donc durer dans le temps, mais la résilience qui veut dire être capable de surmonter la douleur. Il y a bien des gens qui ont peur d'avoir mal. Ils n'ont pas encore mal, mais ils ont peur d'avoir mal. Le boxeur, le combattant que nous sommes appelés à être, et je vous rappellerai que la Bible fait allusion au fait que le croyant soit un boxeur. Paul va dire « Je ne frappe pas comme à l'aventure. » Et ce terme de frapper, il parle effectivement du noble art. Il parle de la boxe qui était déjà pratiquée à l'époque. Et il dit, moi, quand je donne un coup, je ne le donne pas au hasard. Donc, si nous sommes des boxeurs, si nous sommes des combattants, nous allons recevoir des coups. Il n'y a pas de sport de combat où je ne reçois pas de coups. L'idée est d'en donner de plus performants que mon adversaire. L'idée est d'empêcher mon adversaire de m'en donner, mais lui, son objectif, c'est de me frapper. Donc, dans le combat, je vais donner des coups, je vais en recevoir et je vais en esquiver aussi. Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre d'un combattant qui développe sa patience, qui développe sa résilience. Et enfin, dernier point aujourd'hui, l'affliction produit la persévérance. Et persévérance va aussi nous parler de l'inébranlabilité du croyant. Le fait que le croyant soit inébranlable. Je vous donne les synonymes de la persévérance hypomonée. La patience qui demeure inébranlable dans l'attente, qui a de l'endurance, de la résilience. Et le dictionnaire biblique va parler de la persévérance en disant « Dans le Nouveau Testament, c'est la caractéristique d'un homme qui n'est pas dévié de son objectif délibéré et de sa fidélité à la foi et à la piété, même par les plus grandes épreuves et souffrances. » Je répète, la caractéristique d'un homme qui n'est pas dévié de son objectif de sa fidélité à la foi et de sa piété, même en dépit des plus grandes épreuves et souffrances. Ça veut dire que dans la persévérance, il y a le fait aussi qu'on dise « je tiens mon bout, je ne bougerai pas. Tu veux me faire reculer, je ne reculerai pas. » Tu veux me faire tomber, je vais revenir sur mes pieds et je vais rester là. Frappe autant que tu veux. Je vais peut-être tomber, mais je vais remonter et tu ne me feras pas reculer. Pourquoi? Parce que l'endroit où Dieu a placé nos pieds est notre territoire. Donc l'affliction va produire la patience, la résilience, mais aussi ce caractère inébranlable. On est ballotté au départ. On est secoué par le vent au départ. On est secoué par les coups au départ. Mais plus je suis habitué à ces coups, plus je regarde et je dis, ben, fais comme tu veux. Je me rappelle quand je grandissais. À un moment donné, mes parents m'ont dit, ils ont arrêté de me donner la fessée parce qu'ils ont avoué qu'ils se demandaient si ça fonctionnait ou pas. Parce que j'étais du genre... Quand j'ai eu ma punition, 5 minutes après, je suis pas en train de bouder. 5 minutes après, je suis de retour dans le salon et je suis en train de faire des blagues, voire même des imitations pour faire rire tout le monde. Je suis le clown de service à ce moment-là. Et mes parents se demandaient, est-ce que ça sert à quelque chose? Et je me rappelle même une fois, j'ai essayé de parlementer avec mes parents. Je me rappelle plus quelle bêtise, et là il y avait une punition qui était de me priver de quelque chose, et je me rappelle même plus de quoi, mais dans ma tête j'ai fait la réflexion et j'ai essayé de négocier avec mes parents. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me frapper à la place, pouvez-vous tout simplement me donner la fessée à la place au lieu de me priver de telle chose, parce que j'en étais rendu au point où la fessée ne me faisait pas vraiment mal, et si ça me faisait mal, ça me faisait mal sur le coup. Mais par la suite, j'étais très tranquille, puis j'étais passé à autre chose. La douleur s'était estompée, puis je pouvais continuer ma vie. Alors que s'il me privait de quelque chose, ben là, ça allait être pendant quoi? Une semaine, 2 semaines, 1 mois qu'on allait me priver de quelque chose ou on allait m'interdire une activité. Et je me disais, Florent, tu serais gagnant si on te donnait la fessée plus tôt. Donc à un moment donné, la fessée ne fonctionnait plus parce que j'étais habitué à la force de mon père ou à la force de ma mère et il ne m'impressionnait plus avec la fessée. Quand nous sommes habitués effectivement à l'affliction, et là je ne suis pas en train de faire la promotion de la fessée, je ne suis pas en train de faire la promotion de la correction corporelle, je vous dis voilà ce qui se passait, et moi à un moment donné j'en rigolais. Pourquoi? Parce que plus on s'habitue à l'affliction, à la tribulation, plus on devient fort par rapport à ça, et plus on devient ferme par rapport à ça. À un moment donné, c'est fais ce que tu veux, comme tu veux, tu n'y arriveras pas. C'est un peu comme ces films qu'on voit très régulièrement. Un enfant qui se fait malmener, qui se fait malmener, qui se fait malmener. Et à un moment donné, il s'en va dans un dojo, pratiquer certains sports de combat. Et puis à un moment donné, il retourne dans la rue. Et là, son abuseur se présente. Mais c'est plus le même gars. Frappe-moi, tu me fais pas mal et je suis capable d'esquiver tes coups. Et je ne recule plus. Et c'est cette même pensée qu'on doit avoir pour nous. L'affliction va produire chez nous des champions. C'est l'affliction qui permet à un champion de s'élever. Un champion, c'est celui qui, au-delà de tous ses adversaires, a été capable de résister, d'avoir de la résilience, de l'endurance, de la patience et être capable d'être inébranlable en disant « tu ne me sortiras pas de l'endroit » où je suis maître, tu ne me sortiras pas de l'endroit où Dieu m'a établi. » Alors voilà ce que nous avions pour nous tous ce matin. Seigneur, on te rend grâce. On te rend grâce de ce que tu utilises toutes les circonstances de notre vie pour nous améliorer, pour nous peaufiner, pour faire de nous les hommes, les femmes que tu désires qu'on soit. L'affliction met en marche la persévérance. S'il n'y avait pas d'affliction, on n'aurait pas affiché de la persévérance. Mais la persévérance est actionnée et mise en action par l'affliction. La persévérance est peaufinée par la répétition de l'affliction. la persévérance est même amenée à maturité jusqu'à être exactement ce qu'elle doit être avec l'affliction. La persévérance, Seigneur, c'est aussi synonyme de patience. À un moment donné, on se dit, mais jusqu'à quand? Et étant rendu mature, on dit, tant que tu voudras, Seigneur, tant que ce sera nécessaire, Seigneur. À un moment donné, on a mal et on est prêt à capituler à cause de la douleur. Et avec la maturité, on se dit, peu importe le coup, peu importe la douleur, peu importe combien ça pourrait être demandant, je continue. Et enfin, on regarde l'affliction, on regarde celui qui afflige, on regarde notre persécuteur droit dans les yeux et on dit, tu ne me fais pas peur. Voilà pourquoi Paul était capable de dire à la mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Tu ne me fais pas peur. Et assurément, Seigneur, lorsque nous apprenons à combattre avec toi, lorsque nous apprenons à surmonter l'affliction et lorsque nous comprenons tout ce qui vient de bon avec l'affliction, les victoires, les bénédictions, la croissance, l'émancipation, tout cela, Seigneur, permet de passer à travers ces moments d'affliction avec une attitude renouvelée, avec une attitude de conquérant, avec une attitude de champion. Je prie, Seigneur, qu'une telle pensée s'empare de nous tous et que tu sois honoré par notre combat, que tu sois honoré par notre patience, honoré par notre résilience, honoré, Seigneur, par le fait que nous sommes inébranlables. Nous t'avons prié dans le précieux nom du vainqueur des vainqueurs, dans le précieux nom du Sauveur et du Seigneur, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin. On vous rappelle, demain, il y a deux rendez-vous. Donc, études bibliques demain soir à 19h sur toutes les plateformes Internet et en présentiel. Et même aujourd'hui, il y a deux rendez-vous. On l'oublie, mais il y a deux rendez-vous. Ce soir, le pasteur André reçoit tous ceux qui le veulent en présentiel à l'église à 19h pour le cours sur les fondements chrétiens. Donc, on vous invite à être là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des champions qui sont dans cette phase où on est tous peaufinés. Ces champions qui sont peut-être sous les attaques et sous la pression actuellement. Mais mon ami, si je tombe, ne te réjouis pas. Je me relèverai. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.